Vous écoutez RTL. Yves Calvi, jusqu'à 9h30.
RTL Matin.
Nous retrouverons Laurent Gérard et Mademoiselle Jade dans quelques instants, mais à 8h39, la revue de presse d'Adine François est dans la presse ce matin. Ceux qui n'ont pas renoncé.
Ici, le football, c'est sacré. Chaque fois qu'il y a un match, tous les voisins s'invitent et les voitures s'arrêtent. Le foot, vous savez, c'est tout ce qu'on a pour le moment. C'est vital et ça nous donne de l'espoir. Qui parle ? Un supporter italien ? Un supporter de l'OM ? Non. Ces mots, ce sont ceux d'un footballeur du Mossoul Football Club. Et c'est le magazine SoFoot du mois de mars qui nous emmène sur ce terrain-là, avec un récit à hallucinant. Le foot a fait son retour depuis quelques jours dans les quartiers repris aux djihadistes. La situation est encore trop chaotique pour organiser des matchs entre les 10 équipes amateurs de la ville. Alors les 13 joueurs du Mossoul Football Club se sont répartis en deux petites équipes, histoire de pouvoir s'entraîner dans ce qu'il reste de leur stade, pratiquement rasé après avoir été visé à deux reprises par des frappes de la coalition. Daesh s'était servi du vestiaire pour entreposer des armes. Pendant l'occupation, il est arrivé que des combattants de Daesh se joignent aux joueurs du Mossoul Football Club pour une partie. Quand ils arrivaient, les joueurs leur faisaient de la place, ils n'avaient pas le choix. Et les terroristes imposaient de nouvelles règles de jeu. Ils arrêtaient la partie quand ils voulaient, interdisaient d'avoir des logos sur les maillot, arrêter le jeu au moment de la prière, interdiction aussi pour l'arbitre d'utiliser son sifflet parce que le bruit allait invoquer les démons. Mais malgré le malaise, pas question de faire exprès de perdre pour flatter l'ego des terroristes. En tout, on leur a mis 6 raclés, raconte le gardien de but, qui rêve maintenant d'aller jouer à Mossoul Ouest, que les forces irakiennes sont en train de reprendre. La ligne de front n'est qu'à quelques mètres du stade de Mossoul Est. Le sifflement des balles se mêle régulièrement au coup de sifflet que l'arbitre a repris. Mossoul, tir croisé, c'est un reportage à lire dans SoFoot.
Dans la presse aussi ce matin, ceux qui n'ont pas renoncé à lutter contre les maladies.
Oui, avec d'abord un scoop à la une de La Provence qui révèle les résultats des premiers tests d'un vaccin contre le sida qui est expérimenté à l'hôpital de la Conception de Marseille. Le protocole est mené depuis maintenant 4 ans sur 48 patients. Et aujourd'hui, le vaccin a permis de faire disparaître les cellules infectées du corps d'une dizaine de volontaires qui étaient porteurs du virus du sida auparavant. Ils n'en ont plus de traces depuis 2 ans maintenant. Un espoir fou, titre le journal, il faudra encore attendre 2 ans pour considérer que ces malades du sida sont définitivement guéris. Autre virus à la une, la poliomyélite. Le Parisien aujourd'hui en France rapporte cette incroyable bonne nouvelle. L'éradication mondiale de la polio est toute proche. Un seul et unique cas déclaré à travers le monde depuis le début de l'année, c'est en Afghanistan, alors que des centaines de milliers d'enfants étaient infectés chaque année dans les années 50. Parmi les malades les plus célèbres, le président Roosevelt, l'actrice Mia Farrow. La fin de la polio est à portée de main, dit l'OMS, ce qui en ferait, après la variole en 79, la deuxième maladie éradiquée dans l'histoire de l'humanité. Une preuve de l'intérêt de ne jamais renoncer à la vaccination. 40 000 personnes vivent en France aujourd'hui avec des séquelles post-polio. Parmi le député socialiste Malek Bouti, qui témoigne dans le journal, il a été infecté en buvant un biberon d'eau quand il était bébé et qu'il vivait dans un bidonville de Nanterre. La polio, dit-il, a surtout laminé les pauvres. Se dire que nous sommes en passe de l'éradiquer est vraiment émouvant.
Dans la presse ce matin aussi, la campagne présidentielle à J-54.
Et une histoire de renoncement à lire dans Le Monde datée d'aujourd'hui. Une campagne électorale, écrit Le Monde, se juge autant au combat que l'on mène qu'à ceux que l'on abandonne à la fatalité. Dans un monde où Trump a été élu et où les Britanniques sont en passe de sortir de l'Europe, le Front National aurait dû être un sujet obsédant pour les candidats à la présidentielle française. Il n'en est rien. Fillon, Macron, Hamon, Mélenchon semblent avoir déjà admis comme inéluctable la présence du FN au second tour. De semaine en semaine, le fatalisme et la résignation s'infusent doucement dans cette campagne, comme si les candidats se battaient surtout entre eux pour savoir dans quel sens aura lieu ce nouveau 21 avril. Le journal L'Opinion, de son côté, épingle le grand n'importe quoi fiscal des candidats. Taxer les robots, créer 14 tranches d'impôts sur le revenu, exonérer 80% des Français de la taxe d'habitation, tous rivalisent d'ingéniosité, mais la mesure fiscale choc qui fait traditionnellement l'élection en France n'est pas encore née dans cette campagne. Et la réflexion de fond sur le rôle de l'impôt a, elle, encore été oubliée. Encore un autre renoncement.
Eh ben, on va terminer avec un anniversaire.
Lui n'a jamais renoncé à ne rien faire. 60 ans aujourd'hui pour Gaston Lagaffe. Hommage de la Voix du Nord à ce anti-héros drôle, attachant, militant, poétique, passé de Bouchetrou dans un magazine pour enfants à Icône du 9e art. Gaston Lagaffe, imaginé par Franquin, fait sa première apparition dans le journal de Spirou le 28 février 1957. Il s'agissait à l'époque de combler les vides dans les planches du magazine. Lagaffe est immédiatement plébiscité par les lecteurs et s'impose comme un personnage à part entière qui raconte tellement bien son époque, mais aussi la nôtre. Hommage de Libération au plus mauvais garçon de bureau, précurseur des RTT, de la sieste au boulot, éloge du bien-être antiproductif, Lagaffe est tellement d'actualité. Franquin disait de son héros qu'il était un homme à rien faire, sinon inventer des bidules qui tournent mal, comme la machine à faire des ronds de fumée pour les non-fumeurs. Titre de Libé ce matin, Gaston Lagaffe, 60 ans d'emploi fictif. M'enfin.
C'était la revue de presse d'Adeline François.